RCF. Catholique et société, avec Yann Lecoz, le regard d'un catholique aujourd'hui face aux multiples défis de son temps.
Bonjour Yann.
Bonjour,
bonjour Pierre-Emmanuel.
Bonjour Pierre-Emmanuel.
Nous nous retrouvons ce matin et nous poursuivons nos échanges autour de cette question non seulement importante mais grave de l'éducation. Nous avons vu la dernière fois que les acteurs étaient nombreux, mais il me semble, mais je me trompe peut-être, mais vous allez pouvoir nous éclairer, que certains acteurs prennent plus de place et plus de poids que d'autres.
Oui, je dirais même qu'il y en a un qui a pris une place. On peut parler quasiment d'un acteur usurpateur et pour pas dire castrateur, parce que l'État aujourd'hui a pris la place centrale dans l'instruction et la prétention qu'il a à éduquer les enfants.
C'est vrai qu'on pourrait se demander comment on en est arrivé là, d'une certaine manière, puisqu'on avait bien rappelé que la priorité de l'éducation revient à la famille, que l'Église a son rôle en matière de foi et de règles des mœurs, et que la société civile a aussi un rôle parce que la famille ne peut pas tout faire, et parce que, en vue du bien commun, il est nécessaire que l'État, ou en tout cas une organisation, veille à ce que chacun ait un degré de culture commun, et puis aussi permettre à chaque enfant d'avoir vraiment ce droit à l'éducation, que ce droit à l'éducation soit respecté, ce droit à l'éducation qui est rappelé par la déclaration Gravissimum Educationis du Concile Vatican II. Donc, on a bien vu que l'État avait une place, mais en effet, au fil de l'histoire, on voit que cette place est devenue de plus importante, à tel point que je pense, je ne sais pas ce qu'il en est pour nos auditeurs, mais quand on dit que la responsabilité première de l'éducation revient aux parents, y compris pour l'instruction, je ne sais pas si vraiment tout le monde est d'accord avec ça.
Mais c'est clair que l'État a pris un tel... Je repense à un livre que j'ai lu, que vous connaissez bien sûr, c'était un livre écrit par M. Payon, ancien ministre de l'Éducation nationale, je le précise, dans La Révolution française n'est pas terminée, des propos mais qui semblent importance stratégique de l'école au cœur du régime républicain. C'est à elle qu'il revient d'être la matrice qui engendre en permanence des républicains pour faire la République. Est-ce que c'est véritablement le rôle de l'école que de fabriquer finalement le bon citoyen conforme? Et comment a-t-on pu en arriver là?
Alors là, on voit bien qu'on est en contradiction manifeste avec la doctrine sociale de l'Église. Notamment avec cette phrase de l'encyclique de Pie XI, Divini Ilius Magistri. Voilà ce que disait Pie XI. Tous ceux qui osent soutenir que l'enfant, avant d'appartenir à la famille, appartient à l'État, et que l'État a sur l'éducation un droit absolu, ceux-là se mettent en contradiction ouverte avec le sens commun. Et donc c'est même pas une opposition à la doctrine de l'Église, mais avec le sens commun.
Et je rappelle une chose, c'est que cette encyclique a été écrite au lendemain d'une intervention du Duce Benito Mussolini, qui avait dit que, parce que la référence que fait Pie XI est une réponse directe à Mussolini, donc on n'est pas là...
Exactement, le contexte d'écriture de cette encyclique, c'est la montée des totalitarismes. Et donc la manière dont on doit le lire aujourd'hui, c'est la méfiance qu'on devrait avoir nous aussi vis-à-vis d'une certaine montée d'un totalitarisme peut-être chez nous. Alors, à la question « comment en est-on arrivé là ?», c'est vrai qu'on pourrait se demander, dans l'histoire de l'éducation, est-ce qu'il n'en a pas toujours été un peu comme ça, l'État qui s'en... Mais en fait, c'est très récent, parce que des écoles, ça existe depuis la naissance des civilisations, on en trouve trace dans toutes les civilisations, alors c'est pas la même forme, c'est pas destiné à tout le monde, c'est clair. On a la païdéia grecque, on a les arts libéraux chez les Romains. Mais alors j'ai découvert assez récemment que en 1698, il y a une ordonnance du roi Louis XIV, reprise en 1724 ensuite, par Louis XV, qui demande à chaque commune d'avoir une école et qui oblige les parents à envoyer leurs enfants dans cette école. Donc cette notion d'école obligatoire était déjà déjà en tête.
Oui, mais là, on rentre bien dans ce que vous disiez. L'État qui veille, dans le cadre de la justice distributive, à ce que tout enfant ait accès à l'instruction et l'éducation, mais l'école n'était pas étatique à l'époque.
Alors voilà la distinction. On a là un exemple manifeste d'un État qui respecte son rôle, qui permet à chaque enfant, alors ce sera pas à chaque enfant dans les faits, c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on a un peu oublié cette ordonnance royale. De fait, des écoles ont été construites, j'avais vu les chiffres là, en 1790, dans le diocèse de Rouen, il y a sur 1152 paroisses, j'ai dit les communes tout à l'heure, mais c'est dans chaque paroisse bien sûr qu'il y avait les écoles, donc sur plus de 1000 paroisses, 850 écoles de garçons, 380 de filles. C'est pas parfait. Il n'empêche que c'est quelque chose d'assez honorable qui est fait. Donc, l'État reste dans son rôle. Il permet aux enfants d'avoir accès à l'instruction. Mais, de toute façon, il n'a pas les moyens de tout contrôler. Donc, on n'est pas dans cette espèce d'emprise qui consiste à arracher l'enfant à toute forme de déterminisme, comme on l'entend aujourd'hui.
Mmh. Eh bien, excusez-moi, mais là, un mythe vient de s'effondrer pour moi. Je pensais que Charlemagne avait quelque chose à voir avec tout ça. Et nous nous retrouvons pour revenir un petit peu à cette histoire passionnante de la place et grandissante de l'État. Mais je vous laisse nous éclairer sur cette question.
Oui, ce que vous dites est quand même inquiétant parce que vous évoquez effectivement l'intervention de la monarchie en 1698 pour rendre obligatoire l'enseignement sans pour autant que ce soit l'État qui s'en occupe. Mais j'ai sous les yeux des textes que j'ai recueillis qui sont, je pense en particulier à un député du directoire Germinal Ancette qui disait « Saisir l'enfant au berceau, s'emparer de l'homme pendant toute sa vie, le conduire enfin à sa demeure dernière. S'emparer de l'homme dès le berceau, même avant sa naissance, car l'enfant qui n'est pas né appartient déjà à la patrie. » Et ça, c'est Rabault-Saint-Étienne à l'Assemblée en 1792. Mais est-ce que ça serait pas un peu d'origine de cette période, de notre mainmise de l'État sur...
Alors, il s'est passé quelque chose de entre 1698, Louis XIV, et la phrase que vous citez, là, il s'est passé un événement qui s'appelle la Révolution, et c'est là qu'on voit le basculement des idées. Qu'on n'est plus dans cette idée d'une éducation qui est faite pour soit pour subvenir aux besoins de la société, mais besoins assez primaires, somme toute, hein, besoins techniques, besoins professionnels... soit pour rendre l'enfant libre, tout simplement. Ce qu'on veut dans une société antique, c'est une éducation pour des hommes libres, pour qu'ils restent libres. Ce qu'on veut dans une société du Moyen-Âge, c'est une éducation pour des saints. On veut les aider à ce qu'ils soient saints. Et ce qu'on veut avec cette révolution, tout à coup, c'est, avec en tout cas cette citation issue de ce moment de la révolution, c'est former un être nouveau, sans déterminisme.
Oui, mais alors là, je vous arrête parce que, excusez-moi, je veux pas vous... Mais Madame Taubira, c'est pas de l'époque 1789, qui dit « L'éducation fabrique des citoyens, elle les arrache au déterminisme », c'est le mot que vous voulez employer, « des origines de la religion ». Donc, il y a bien une volonté là-dedans de prendre en main complètement l'être humain, non ?
Exactement. C'est bien ce qu'on observe aujourd'hui. On aura, je pense, l'occasion d'en parler encore dans d'autres émissions. Et je peux que me contenter de rappeler ce que disait Pie XI dans son encyclique, où il mettait bien en garde contre cette vision qui nous rappelle les années 30. C'est exactement ce qu'il disait. Entre la Révolution et maintenant, il y a eu les années 30. Et c'est exactement ce que disait le Duce ou le Führer. Et puis, dans leur pays respectifs.
Oui, et puis d'autres, ça s'appelait les Komsomols, je crois, en URSS.
Oui, et, voilà.
Et puis les Hitlerjungen.
Et c'est le même principe à chaque fois.
C'est le même principe, à savoir la prise en main de...
Mais, les deux ennemis à chaque fois, c'est la famille et l'Église. Alors, il y a eu une autre période dans laquelle on s'est méfié de l'Église, c'était au moment des lois de Jules Ferry. Alors, je voudrais quand même... rendre justice aussi un peu à l'État dans son rôle, hein, parce qu'on conspire oui. beaucoup sur l'État. Rappelons que c'est quand même une très bonne chose que l'éducation ait été aussi généralisée, que des écoles gratuites aient été développées, même si, attention, l'école gratuite existait avant. Sauf que l'école gratuite, c'était pour les pauvres. Avec les lois Jules Ferry, ça devient gratuit pour tout le monde. Enfin, en tout cas, gratuit dans l'accès. Ça signifie bien entendu qu'il a fallu financer quelque part. Donc voilà, rendons à César ce qui lui appartient, et à Jules, à l'autre aussi, ce qui lui revient. C'est un bien, mais c'est toujours toute la difficulté qu'on a quand on critique une chose. Une erreur a toujours un noyau de vérité. Et toute la question, c'est de déceler ce noyau de vérité et d'en départir toute la gangue dans laquelle ce noyau est empêtré. Et pour ce qui est de l'école, les lois de Jules Ferry sont une bonne chose au départ, mais tout n'est pas nouveau avec lui. Et ce qui est mauvais, c'est cette prise en charge de l'enfant de manière plus que général, au point d'évincer les parents, au point même qu'on n'est même plus conscient de la responsabilité qu'on a, nous, comme parents, dans l'instruction de nos enfants.
Mais ce qui est très inquiétant dans les propos que vous tenez, que dans les constats que nous faisons, c'est qu'on voit que aujourd'hui, la scolarité donc est obligatoire à partir de 3 ans jusqu'à 16 ans. Derrière, il y a le service national universel, je ne sais plus comment ils appellent
Service
ça,
civique, oui.
service civique. Et maintenant, la dernière invention, c'est la commission des 1000 premiers jours. C'était que les 3 ans qui précèdent, et même un peu plus, qui précèdent la naissance, l'État va mettre son nez là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que...
Eh bien, moi, j'inviterai chacun à remettre tout ce que vous dites en parallèle avec ce que nous disions dans l'émission précédente sur la responsabilité des différents acteurs. L'acteur principal, c'est la famille. Et là, dans tout ce qu'on dit, on voit que dans la vie d'un enfant, tout le temps qui passera, il passera dans les mains de fonctionnaires de l'État. Alors, est-ce qu'on est vraiment conforme à cette priorité qu'on donne à la famille dans l'éducation?
J'ai même entendu dire que dans un pays voisin du nôtre, qui est l'Allemagne, des enfants avaient été confisqués à une famille, alors une famille apparemment très saine, qui prétendait faire l'enseignement à domicile. Les enfants ont été confisqués et la Cour européenne de justice a donné raison à l'État allemand.
Je pense qu'il va falloir poursuivre cette discussion. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine. Le sujet paraît brûlant.